Bonjour à chacune, à chacun, et puis aux visiteurs qui nous rejoignent pour ce temps estival. Soyez les bienvenus. Alors nous voulons reprendre un petit peu ce chapitre 2 du livre des Actes. C'est un chapitre très dense. Alors ce matin, il va falloir choisir. On ne va pas pouvoir parler de tout, aller dans toutes les directions que ce chapitre nous offre. Et en matière de doctrine, de théologie, d'habitude, d'église, c'est un chapitre important. C'est le chapitre de la Pentecôte, avec cette signification de la Pentecôte ici. Cette moisson, c'est prémices, c'est la question des prémices, et ici les prémices du Saint-Esprit, les prémices de l'héritage et le Saint-Esprit comme prémices hein, de cet héritage que nous avons en Jésus-Christ. Et nous voyons des choses un petit peu surprenantes dans ce chapitre, et entre autres le fait que lorsque le Saint-Esprit vient, eh bien, ceux qui le reçoivent se mettent à parler en d'autres langues. Et ils sont compris par tout un public divers et varié de toutes les nations de la terre qui les entendent chacun parler dans leur langue maternelle. Et nous avons une quinzaine d'origines ethniques qui sont nommées, qui sont citées. Alors voilà, dans ce chapitre, la question, peut-être qu'on va, mettre le mot pentecôtisme pour la poser, la question du pentecôtisme. Aujourd'hui, le monde évangélique connaît en particulier deux tendances, je dirais trois plutôt, mais en tout cas, ceux qui vont s'inscrire dans ce chapitre 2 du livre des Actes en disant c'est toujours comme ça que l'Église doit vivre, doit fonctionner avec des signes, des miracles, des prodiges, du parler en langue. Et quand ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas normal, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu de nous. Et puis, deuxième famille d'Église, on va dire non pentecôtistes ou non charismatiques, et qui vont lire les Écritures en disant « Attention, ces phénomènes-là ne sont-ils pas pour un temps, ne s'inscrivent-ils pas pour une période donnée dans un but précis? Qu'en est-il toujours aujourd'hui ?» Alors on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui. Parce que le livre des Actes va continuer de nous enseigner. Et dans ce chapitre, il y a certes ce dont nous allons parler aujourd'hui, hein, la Pentecôte, mais il y a également dans quoi s'inscrit la Pentecôte, dans quel contexte à partir du verset 14, et là c'est toute la question d'Israël. Toute la question d'Israël est fondamentale, nous la traiterons dimanche prochain, puisque le chapitre 3 revient largement dessus. Et comprendre d'où vient finalement cette effusion du Saint-Esprit, c'est parler en langue et son imbrication avec les prophéties faites à Israël et comment Dieu veut interpeller encore Israël dans cette période, c'est fondamental. On y reviendra. On a d'autres sujets qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais qui sont formidables. Hein. Par exemple, la question de la communauté des biens. Ils mettaient tous leurs biens en commun. Ils ne disaient pas que c'était à eux en propre. Voilà. Est-ce que cette vie communautaire est normatif pour l'Église? Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Hein? D'autres sujets encore. Mais ce matin, j'aimerais que nous comprenions bien la question du baptême du Saint-Esprit et de la Pentecôte. Alors, on revient au chapitre 1, à l'annonce que fait Jésus. En acte 1, versets 4 à 8, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus pose ces mots-là en disant, dans peu de jours, attendez-le, c'est la promesse, ça vient, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je souligne que le verset immédiat qui suit, c'est une réaction des apôtres qui du coup demandent « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Tout de suite, le lien entre Israël et cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Et dans notre chapitre 2, Pierre l'a expliqué. Hein. Face à ceux qui s'étonnaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ce phénomène? Est-ce que simplement c'est des gens qui sont ivres, qui ont bu trop de vin? Ou est-ce qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose de phénoménal, des gens qui parlent d'autres langues sans jamais les avoir apprises? Il dit non, non, non. Il dit c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, etc. Dans les derniers jours, je ferai ceci, je ferai cela. On y reviendra. En tout cas, Jésus qui annonce dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et effectivement, dans notre chapitre 2, nous voyons le Saint-Esprit venir et le phénomène commun par lequel il se manifeste, c'est cette capacité à parler en d'autres langues. Alors, quel est le but pour Dieu? Quel objectif Dieu poursuit-il quand il baptise du Saint-Esprit? Le livre des Actes ne nous permet pas vraiment d'y répondre. Il faut aller chercher en Corinthiens, le seul verset qui en parle. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et en 1 Corinthiens 12, verset 13, en plein débat d'ailleurs sur le sujet des dons miraculeux, de parler de diverses langues, Dieu nous dit ceci par la plume de l'apôtre Paul. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Le but, nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour quoi faire? Pour former un seul corps, soit grec, soit juif, et nous le verrons dans les actes. Former un seul corps à partir, des gitans, des français, des malgaches, de l'Angola, peut-être ça vient d'ailleurs encore... Former un seul corps, et puis soit esclave, soit libre, il y a aussi la question des barrières sociales, de l'argent, de la culture, toutes ces barrières-là. Le Seigneur dit non, 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 on va former un seul corps. Alors, former un seul corps, ça vient dans l'exact contraire du fait que les peuples soient des peuples séparés. Et séparés, entre autres, par une langue différente. Et nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans parler de l'origine de ces langues différentes. Quand est-ce que l'humanité s'est mise à parler en diverses langues? Et bien d'après la parole de Dieu, nous le trouvons dans le livre de la Genèse. Genèse 11, c'est cet épisode qu'on appelle l'épisode de la confusion des langues avec la tour de Babel. Alors on peut y aller. Genèse 11. En Genèse 11, nous voyons cette humanité qui formait un seul corps. Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et puis ils s'établissent et puis ils disent, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et puis l'Éternel qui descend et il dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et nous voyons qu'ils dressent une tour, les ziggourats, dont le but est un culte, je dirais, à Satan, hein, à travers l'occultisme, à travers l'astrologie, etc. Et nous voyons leur projet de se liguer ensemble contre Dieu. Alors, comment Dieu va-t-il les empêcher ? Il dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel, c'est la confusion, le brouillage. Alors, c'est intéressant parce que nous avons donc une humanité fracturée, dispersée, et évidemment en conflit les uns avec les autres, en opposition, en rivalité. Et voilà, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, ça c'est un étranger, ça c'est ceci, ça c'est cela, et puis on vient pas du même monde. Voilà, toutes ces barrières-là. Et face à toutes ces barrières, Dieu a un projet formidable, c'est de réunir en un seul corps des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants, de toute langue, de toute culture, de toutes origines sociales, avec chacun leur histoire, et de balayer, ou de surmonter en tout cas les barrières que dans notre vécu humain nous avons. Et ce ne sont pas des petites barrières. Nous avons tous nos préjugés, nos a priori, nos critiques, etc. à l'encontre de ceux qui ont une culture, un vécu et une position différente de la nôtre. Formidable. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu dit, moi j'ai un projet, c'est de former un seul corps. Oui, mais comment tu vas faire ? Est-ce que toi tu as vraiment la puissance de former un seul corps ? Avec tous ces gens si différents, si opposés les uns aux autres, est-ce que tu as vraiment la puissance de travailler leur cœur pour qu'ils puissent marcher d'un même pas ? C'est ça l'Église. Travailler dans le cœur de chacun, et nous le verrons comment Dieu va travailler dans le cœur de l'apôtre Pierre plus tard, lorsqu'il va aller vers les païens. Il grince des dents, c'est difficile, il faut que le Seigneur le pousse, il dit, ah mais non, moi les païens, pas touche, hein, et puis ça, enfin, Et puis d'ailleurs, quand il va y aller, il va être critiqué à son retour, oui, tu es allé là-bas, où les barrières sont hautes. Est-ce que Dieu a la puissance de travailler dans nos cœurs pour enlever ces barrières ? Oui. Et comment va-t-il montrer de façon magistrale à chacun qu'il est celui qui, de toute l'humanité, fracturée et dispersée, peut unir et former un seul corps, en disant, au fait, c'est quoi qui nous sépare au départ ? Oui, c'est les langues. Les langues nous séparent ! C'est pas un problème. Je vais vous montrer que je suis celui qui est capable, de la même manière que j'ai divisé les langages, je suis celui qui est capable de former un seul corps et de vous faire vous comprendre les uns des autres. Regarde, là tu parles, l'autre il te comprend alors qu'il n'a pas appris l'arabe, il n'a pas appris le crétois, mais il t'entend en arabe, il t'entend en crétois. Oui, je suis celui qui ait cette puissance de réunir les enfants de Dieu dispersés et pour former un nouveau peuple. Et là, je suis en train de vous le prouver par une manifestation miraculeuse. Et les gens, ils sont ébahis, émerveillés, ils disent « Ah, ah, ce Jésus dont on parle et qui est ressuscité, bon, du pipeau tout ça. » Oui, seulement, lorsque vous les entendez parler dans d'autres langues qu'on n'a pas appris, dans une variété de langues incroyables, vous pouvez plus dire « c'est du pipeau ». Vous pouvez plus dire « ouais ». On est face à, ben, à Dieu qui est effectivement capable de surmonter la barrière des langues. Comme ça. Et qui prouve par là qu'il est celui qui véritablement peut former un seul corps à partir de gens dont les horizons sont si différents que jamais ils ne seraient retrouvés dans un même lieu, autrement qu'en rencontrant Jésus-Christ et en étant réunis par son Saint-Esprit. Alors, ce jour-là, il y a effectivement un même signe commun à tous. Et c'est important que lorsque Dieu veut former un seul corps, il donne à chacun ce don des langues. Ce jour-là. Parce qu'imaginez qu'il s'y soit pris autrement, imaginez qu'il n'ait pas donné à tous le même don. Ce jour-là, alors on aurait commencé à faire des clans. Il y a le clan de ceux qui ont reçu tel don. Il y a le clan de ceux qui ont reçu tel autre don. Ce n'est pas le même. Et puis on aurait fait des hiérarchies, évidemment, parce que tel don est peut-être supérieur à celui-là. Mais c'était dans l'exact contraire de l'Esprit de Dieu qui voulait former un seul corps. Et quand Pierre est face aux païens qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent d'autres langues, il ne peut faire autrement que de dire « Ils ont reçu la même chose que nous. » On est sur un pied d'égalité. On n'est pas supérieurs, ils ne sont pas inférieurs. Pourquoi il n'a pas donné aux païens un autre don? Il nous aurait nous donné le don des langues et puis à eux un autre. Comme ça, il y aurait eu un petit peu, on aurait gardé un petit peu des frontières dans l'Église, vous voyez. Eh bien non, le Seigneur ne veut pas de barrières, ne veut pas de frontières. Et il donne à tous le même don pour bien marquer l'égalité de chacun, l'égalité de tous. Attention, un Corinthien nous présentera là quelque chose de différent. Maintenant qu'il y a un seul corps, Paul en Corinthien va dire « un seul corps, d'accord, mais pas un seul organe. Un corps est composé de plusieurs membres et chacun n'a pas la même fonction. Dans le corps uni, eh bien, il y a différentes fonctions. » Et il dira « tous parlent-ils en langue ? Tous prophétisent-ils ? Tous ont-ils tel don ? » Non ! Le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut, pour que le corps soit dans une belle diversité telle que le Seigneur l'a voulu. Donc, nous avons dans les actes le projet de Dieu de départ, former un seul corps, et puis clouer le bec à tous ceux qui voudraient maintenir des barrières. Barrières sociales, barrières intellectuelles, barrières culturelles, barrières ethniques. Il dit non, ça n'a pas de place dans l'Église. Dans moi, dans mon projet que je forme là, ça vous balayez. Puis une fois que ça c'est en place, le Seigneur va développer la diversité dans ce corps, dans ce même corps uni. Et donc, Corinthiens parlera de ce corps et de chacun des membres et ne parlera plus du fait que tout le monde est le même. Donc, pas du tout. Au contraire, c'est la diversité qui prévaut. Alors, nous sommes intéressés aussi par le fait que ici, dans la Pentecôte, Jésus leur a dit au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà un ordre de mission, nous l'avons dit, nous en avons largement parlé la semaine dernière, c'est l'évangélisation, n'est-ce pas? Est-il étonnant que le don que le Seigneur fasse soit celui des langues à cette Pentecôte? Il leur a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Comment, Seigneur? Comment? Je vous donnerai la puissance. Et d'ailleurs, je vais vous en convaincre immédiatement par ce phénomène aujourd'hui, vous êtes capable de parler d'autres langues que vous n'avez jamais apprises. Alors, vous me faites confiance pour aller parler de moi jusqu'aux extrémités de la terre ? Est-ce que je ne serai pas avec vous jusqu'au bout du monde ? Oui. Alors maintenant, peut-être un petit peu plus technique, hein, mais nous allons voir au travers du livre des Actes comment le Seigneur réellement a formé un seul corps. Puisqu'il semble dans le livre des Actes que nous ayons quatre étapes, quatre occurrences où dans un groupe particulier, le Saint-Esprit vient, les baptise et qui parle en langue. Pourquoi ? Alors, nous l'avons vu ici en acte 2. Le groupe qui est touché ici, en acte 2, ce sont les Juifs. Ce sont les disciples de Jésus, tous réunis dans la chambre haute, etc. Et nous avons affaire exclusivement à des Juifs. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Et donc la Pentecôte, première étape, concerne les Juifs. On se souvient de Corinthiens, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Alors, nous allons avancer et trouver un deuxième groupe. J'en saute un. En acte 10, nous trouvons le groupe des païens. Alors, souvent dans le langage, quand on disait soit juif, soit grec, le grec c'était le païen. Quoi. C'était tout ce qui n'était pas juif. Il y a le juif, et puis il y a le reste du monde. Hein. Voilà, ça c'est les païens, ou le grec. En acte 10, nous trouvons donc, effectivement, le fait que Dieu veut former un seul corps, et c'est un passage très fort, hein, c'est avec Corneille. Donc ce qui va se passer chez Corneille, c'est le moment très très symbolique, cette Pentecôte, j'ai envie de dire, troisième étape, où Dieu réunit, agit pour former un seul corps. Alors, acte 10, au chapitre 10, verset 28, il dit, vous le savez, c'est Pierre qui dit, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Hein, vous voyez les barrières ? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Vous avez vu le regard qu'on porte sur les autres ? C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Et puis, continue de discuter. Et au verset 34, face au fait que Dieu s'est manifesté à Corneille, Pierre dit, ouvrant la bouche, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Tiens, est-ce qu'il y a des gens supérieurs et d'autres inférieurs, des sous-groupes, des races supérieures ? Alors, ça nous interpelle, parce que finalement, dans l'histoire, c'est pas si vieux, le concept de race supérieure. Hein ? Dieu fait-il du favoritisme ? Il dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et alors, il continue à parler. Et au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Eux, ils se disaient, attends, que pour nous ça, don du Saint-Esprit, c'est notre propriété, c'est notre appartenance ça. Ah non, il le répand aussi sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ben non, on va enlever les barrières. Hein. Il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Puis après, au chapitre 11, il va devoir s'expliquer quand il retourne à Jérusalem, on l'attend de pied ferme. Hein. Au verset 2, il dit, lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Oui, et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Alors il leur raconte. Hein. Et au verset 15, il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Pentecôte, première étape. Comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? On ne peut pas s'opposer. Le Seigneur est celui qui montre qu'il veut vraiment former un seul corps. Et il y avait de la résistance, on le voit. C'était pas si simple. Mais le Seigneur agit et le fait. Et le fait en montrant, au travers de ce don de parler diverses langues, l'exact contraire de ce qui s'est produit à Babel. Ce qui divise les peuples, c'est la barrière des langues. Là, Dieu dit, non, moi je veux vous réunir en un seul corps. Alors, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ah, on va former un seul corps avec eux. Formidable, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons certes l'impression peut-être d'avoir couvert l'ensemble de l'humanité lorsque nous avons dit les juifs, puis les païens, puisque c'est vrai que ce qui n'est pas juif est païen, puisqu'il n'est païen, pas païen est juif. Mais ce n'est pas le cas. Nous allons rencontrer deux autres groupes très particuliers qui ont chacun leur spécificité et qui sont donc différents du groupe juif de départ et différents des païens tels que Corneille qui viennent avec leur culture, leur dieu romain, leur dieu grec. Voilà. Nous le trouvons, c'est la deuxième étape de la Pentecôte, ce sont les Samaritains. En acte 8, donc on revient un petit peu en arrière, acte 8, puisque ça précède les païens. En acte 8, j'ai envie de dire, c'est la Pentecôte des Samaritains. Qui sont les Samaritains ? Les Samaritains ne sont pas des Juifs, mais ils vivent au cœur d'Israël, sur le mont Garizim, en Samarie, une petite enclave. Voilà, il y a tout ce mélange culturel, religieux, et voilà que depuis plusieurs siècles avant Jésus, les Samaritains ont développé, je dirais, un judaïsme, puisqu'ils, leur façon d'adorer Dieu repose sur le Pentateuque, donc la loi de Moïse. Par contre, ils rejettent tout le reste, tous les autres livres, ils rejettent. Nous avons donc affaire à un peuple qui n'est pas juif, mais qui en même temps pratique, je veux dire, est en relation avec Dieu au travers de la loi, et disent, ben voilà, nous on a la loi, pareil que vous, et nous on respecte Dieu, et nous on... Voilà. On a affaire à un monothéisme, et en plus à un monothéisme qui repose sur la révélation mosaïque. C'est fort, hein? Et qui en même temps est en complète opposition avec les juifs, ils se détestent. Samaritains et juifs se détestent, c'est Jésus qui le dit, hein? C'est le fameux épisode de la femme samaritaine. Lorsque Jésus traverse la Samarie, et il s'arrête, il a très soif, il est midi, il s'arrête, il y a le puits, et il rencontre la femme samaritaine et lui dit, donne-moi à boire. Il dit, mais attends, toi tu me demandes à moi à boire, toi un juif qui moi suis une samaritaine, d'habitude on ne se parle même pas. Et toi tu me demandes à boire. Tu franchis les barrières là. Jésus lui dit, oh, ben, si tu connaissais celui que je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et s'engage tout un dialogue là, religieux. Et il dit, oui, vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, nous on dit que c'est sur notre montagne le mont Garizim, alors qu'il y a tort, qu'il y a raison. Jésus lui dit, ouf, eh ben, tu sais quoi? Bon, c'est nous qui avons raison, bien sûr, puisque le salut vient des juifs, il leur dit quand même, il dit. Néanmoins, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Et puis il lui parle et dit, et le Messie, quand est-ce qu'il arrive? Et Jésus lui dit, bah, celui qui te parle, c'est lui, c'est moi. Wow. Et elle croit. Et elle va témoigner. Et en Samarie, beaucoup de gens vont croire que Jésus est le Messie, parce qu'eux aussi l'attendent, conformément à la loi mosaïque. Donc nous avons là affaire à un groupe de l'humanité, un peu différent des juifs et un peu différent des païens. C'est un entre-deux, mais qui ne formait pas du tout un seul corps. Alors là, pour le coup, ils se touchaient pas. Hein? Bien, Jésus s'approche de la femme samaritaine, un peu comme un prélude, parce que Dieu veut former un seul corps aussi avec les Samaritains. Et c'est ce qui va se passer en Actes 8, au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Formidable, hein? Voilà l'étape où Dieu veut former un seul corps et il intègre les Samaritains de façon pleine et entière à ce nouveau corps spirituel qu'il crée et qu'est l'Église. Bon, il reste un quatrième groupe. On a dit une Pentecôte en quatre étapes. Les Juifs, les Samaritains, les païens. Qui peut-il donc rester? Eh bien, nous allons en acte 19, et nous trouvons notre dernier groupe, la dernière étape de cette Pentecôte qui est de former un seul corps, quelles que soient nos origines, et puis notre parcours spirituel également. Et en acte 19, nous avons affaire aux disciples de Jean. Hein? Acte 19, c'est Paul, il arrive à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà un dernier groupe très particulier, les disciples de Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'étaient pas des Samaritains, ce n'étaient pas des païens, c'était des Juifs. Mais des Juifs qui c'était distingué, je dirais, à l'époque de Jésus et de Jean, qui s'était distingué en obéissant vraiment à l'appel de Dieu au travers du prophète Jean, qui était le précurseur de Jésus et qui disait et qui appelait à la repentance et qui appelait au baptême de repentance. Baptême que Jésus va avoir également, hein, on s'en souvient. Alors, voilà des gens qui ont été baptisés par Jean. Et puis on se souvient qu'il y a les disciples de Jean. D'ailleurs, les disciples de Jean, face aux disciples de Jésus, les évangiles nous rapportent que des fois il y a un peu des tensions. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qui est vraiment Jésus. Ils disent, oui, t'as vu, il y a les disciples de Jésus, ils ne font pas comme nous. Et puis voilà. Et Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais il faut que lui... ils croissent et que moi je diminue. Et on voit des disciples de Jean quitter Jean pour suivre Jésus. Et Jean s'en réjouit. Parce qu'il a dit, moi je suis le précurseur, il faut croire en celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, c'est lui le Messie. Moi je prépare le chemin. Et nous avons donc affaire à un groupe de gens là, qui étaient rentrés vraiment dans cette préparation du chemin, et qui étaient disciples de Jean. Pour quelle raison est-ce qu'ils n'avaient pas suivi la suite de l'histoire ? Certainement parce que leurs affaires les avaient appelés ailleurs, et ils avaient quitté certainement le territoire d'Israël. Nous les retrouvons ici à Éphèse. Et seulement, voilà, nous voyons un groupe de personnes qui ont adopté le baptême de Jean, donc qui ont fait un chemin supplémentaire, je dirais, avec Dieu, dans un temps particulier, et qui n'ont pas eu la suite, parce qu'ils sont partis, ils n'ont pas eu connaissance de Jésus, ils n'ont pas eu connaissance de celui qui venait après, ils n'ont pas eu connaissance de la mort, de la résurrection de Jésus, ils n'ont eu connaissance de rien du tout. Ils sont restés sur le baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean, il préparait le terrain à Jésus. Est-ce que vous voulez rentrer dans la suite ? Ils disent, oui, on veut rentrer dans la suite. Et donc, ils sont intégrés là pour former un seul corps. Alors, nous avons donc juifs, païens, samaritains et disciples de Jean. Vous savez, on peut accepter Jésus ou on peut le refuser. Vous savez, ces quatre groupes, ils existent encore aujourd'hui, chacun des quatre. Chacun des quatre. 2000 ans plus tard, les disciples de Jean existent toujours. On les appelle les Mandéens. Ils vivent sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, en Irak. Ils représentent un groupe de 70 000 personnes. Depuis la guerre d'Irak, ils ont été dispersés un petit peu et beaucoup sont partis aux États-Unis, au Canada. Ce sont toujours un groupe qui existe et qui ont refusé Jésus comme Messie et qui disent qu'ils sont disciples de Jean. Jean, c'est le dernier prophète, et ceux qui disent que Jésus, c'est le Messie, pour eux, c'est des apostats. Voilà. Il existe toujours aujourd'hui ce groupe qui est resté sur le baptême de Jean en disant c'est Jean le prophète. Et ce sont les plus anciens baptistes d'ailleurs. Le terme sabéen, qui était employé par les musulmans, veut dire baptiste. Ce sont les baptistes. Mais ces baptistes qui immergent par immersion, qui baptisent par immersion, du baptême de Jean, 2000 ans après, c'est un groupe qui reste comme témoin. Comme témoin qu'on peut dire non à Jésus. Je ne veux pas former un seul corps. Les Samaritains, est-ce qu'ils existent toujours aujourd'hui ? Ben oui, ils ne sont plus très nombreux, ils sont 700, ça fait beaucoup. Ils habitent toujours sur le mont Garizim, toujours ça n'a pas bougé. Et toujours avec la loi de Moïse, et toujours dans la même tradition religieuse, ils existent 2000 ans plus tard. Alors, officiellement, le gouvernement d'Israël leur a donné, sont des juifs officiellement, hein. Mais ils existent comme un témoignage de ce groupe qui n'a pas voulu former un seul corps. Les juifs, en tant que judaïsme orthodoxe, existent-ils toujours aujourd'hui en refusant le Messie ? Oui. Et les païens qui refusent le Messie ? Également. Le Seigneur a formé un seul corps avec une Pentecôte en quatre étapes, avec chacun sa particularité. La Samarie, les disciples de Jean, c'est pas tout à fait pareil. Mais ne soyons pas étonnés que 2000 ans plus tard, le Seigneur ait maintenu l'existence de ces quatre groupes, hein, comme un témoignage du fait que on peut accepter le Seigneur Jésus pour former un seul corps, ou on peut refuser et se priver de toute la bénédiction qu'il y a de connaître Jésus-Christ. Alors, maintenant, lorsqu'on parlera peut-être de Pentecôte, on se souviendra que le Seigneur veut avant tout former un seul corps et que les quatre occurrences dans le livre des Actes nous amènent vers quatre groupes de personnes très particulières, en opposition, et toujours 2000 ans après, toujours en opposition les uns avec les autres. On ne se mélange pas, on a notre dogme et ça ne bougera pas. Mais le Seigneur travaille dans les cœurs de certains et il les ajoute à l'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors pour nous, au-delà de peut-être une première pierre qui est posée par rapport à la question du pentecôtisme et de bien comprendre ce que le Seigneur a fait dans le livre des Actes. Et pourquoi il a, dans ces quatre, en tout cas dans trois, la quatrième on la suppose, pourquoi est-ce qu'il a donné le même don ? Et pas différent. On comprend. C'est pour qu'il n'y ait pas de barrière, pas de hiérarchie. On est sur un pied d'égalité, on a reçu en commun. Et en plus, pour le propager jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur est celui qui a la puissance de nous faire aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner de sa grâce et de son amour. Pour nous, nous retenons deux choses ce matin. Le Seigneur veut qu'on soit unis. Le Seigneur veut qu'on forme un seul corps. Le Seigneur veut qu'on enlève nos barrières les uns à l'égard des autres parce que notre vécu d'être humain dans nos particularités continue ces barrières ici sur Arles ou à Tarascon. Voilà, on a de tout. Et c'est bien quand dans l'Église on a vraiment de tout aussi. Quand dans l'Église il y a quelque chose de plus fort que la culture, quelque chose de plus fort que nos origines, quelque chose de plus fort que notre position sociale, un dénominateur commun bien plus fort, bien plus puissant, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Amen. Alors nous avons à nous accueillir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. On a vu Pierre, on a vu les reproches qui lui étaient adressés, on a vu toutes ces barrières, ça bouge dans le cœur. On a des réticences. On grince des dents parfois. Le Seigneur nous dit, oh, c'est pas toi qui vas remettre des barrières là où moi, j'ai donné ma vie et mon Saint-Esprit pour les enlever. Alors, ne remets pas les barrières là où moi, je les enlève. Et c'est pour ça que nous avons à rechercher l'unité, l'amour, les uns avec les autres. C'est pas une question d'affinité. Si c'était une question d'affinité, ça se saurait. Et Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, etc., enfin, les païens ils font pareil, tout le monde fait pareil, c'est pas un souci. Non, c'est pas une question d'affinité. Dans l'Église, vous avez des gens où vous n'avez pas d'affinité. Vous avez des gens, votre premier réflexe, c'est plutôt de vous reculer, plutôt de passer à côté, plutôt de pas trop les fréquenter, de pas chercher à les connaître. Le Seigneur dit non, vous allez tisser des liens, c'est ça l'amour fraternel. Amen. Merci au Seigneur parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et la puissance qui nous rend capable de surmonter nos barrières, c'est le Saint-Esprit en nous. Et c'est aussi lui qui nous rend capable de témoigner et d'aller vers toutes ces autres langues et ces autres cultures. Et le Seigneur, il se débrouille toujours pour que son message et sa parole soient entendus. Amen. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, cette puissance en nous qui habite. Merci parce que il n'est pas pour une certaine élite, mais qu'il est commun à tous. Tous baptisés dans un seul esprit, tous abreuvés d'un même esprit. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, on veut te remercier. Seigneur, que nous puissions travailler dans le même sens que ton Saint-Esprit, pour vraiment former un seul corps. Et combien d'appels, Seigneur, tu nous adresses à ne pas nous rediviser, avoir des clans, refonctionner par affinité, par ressemblance. Aide-nous, Seigneur, en ce sens. Et tu es celui qui puissamment peut nous aider si nous le voulons, parce que ton Saint-Esprit agit, il travaille les cœurs. Tu es vraiment celui, Seigneur, qui travaille nos cœurs pour faire tomber toutes ces barrières. Alors que nous puissions travailler main dans la main avec toi et t'écouter. Et comme Pierre le disait, ne pas nous opposer à toi. Seigneur aussi, dirige nos cœurs vers le témoignage, vers l'évangélisation. Merci parce que tu nous adresses cette mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais on peut commencer dans la ville où nous sommes pour ouvrir notre bouche et atteindre, Seigneur, toutes ces âmes diverses et variées qui ne parlent pas toutes un même langage. Mais toi, Seigneur, tu as un langage commun qui s'adresse et qui touche tous les cœurs. Aide-nous à en être les porteurs. Au nom de Jésus. Amen.